Entre les lignes, Jean-Marie Félix.
Entre les lignes, votre rendez-vous du livre et de l'écriture. Avec Marlène Métraillé et son invité, nous évoquerons aujourd'hui l'écrivaine valaisanne Corinne Abille. Bonjour, soyez les bienvenus. Si vous connaissez un peu la ville de Sierre en Valais, vous savez sans doute que sur ses hauteurs se trouve une belle bâtisse construite au début du XXe siècle nommée Château Mercier. Les lieux appartiennent dorénavant à l'État du Valais et c'est là que tout au long de la saison, une série de manifestations culturelles est proposée au public, dont des rencontres littéraires animées par ma consoeur et collègue Marlène Métraillé. Bonjour Marlène.
Bonjour.
Jeudi dernier, nous étions le 14 mars. Vous avez tenu à rendre un hommage à Corinne Abille, une grande dame des lettres romandes, née à Sierre il y a 100 ans. Soirée qui a attiré du beau monde.
Et oui, les rencontres littéraires se devaient de lui faire un signe. Et l'autre soir, c'était évident. Corinne Abille était avec nous. Pour preuve, un public nombreux, un public de tous âges, venu de Sierre. Mais pas seulement, un public curieux et ravi de retrouver Corinne Abille. Alors, il y avait dans l'assistance des proches de l'écrivain, notamment Michène Chappa, la veuve et deuxième femme de l'écrivain Maurice Chappa. Il y avait de nombreux membres de la famille Bille, notamment Blaise Chappa, le fils de Corinna, tous venus participer à cet hommage.
Et donc, pour évoquer Corinne Abille, vous avez invité Gilberte Favre. Elle aussi est écrivaine. Elle a publié en 1981 un livre biographique intitulé « Corinne Abille, le vrai conte de sa vie ». Ce livre a été réédité récemment aux éditions de l'Air dans la collection L'Air Bleu. On y trouve un condensé du parcours d'une femme qui a su très tôt que sa vocation passait par l'écriture. Donnez-nous quelques jalons de ce parcours de vie.
Alors Corinne Abille, née Stéphanie, dite Fifon, en juin 1912 à l'hôpital de Lausanne, la même où, 4 ans plus tard, naîtra un certain Maurice Chappa, qui deviendra son compagnon d'écriture et de vie, son mari et son meilleur ami. Corinne Abille grandit à Sierre, dans une maison de contes de fées, le Paradou, entre un père peintre et aventureux, Edmond Bille, et une mère sensible et fine, née dans un village voisin. Enfant, parmi les amis et connaissances de son père, elle croise Pierre-Jean Jouve, Panait Istrati, Romain Rolland ou encore Rilke, présent dans la salle de l'hôtel de ville pour écouter Corinna donner une audition de piano. À 16 ans, sa vocation de l'écriture se fait jour, à la lecture de Dos Passos. En une nuit de veille, dirait-elle, je décidais de devenir écrivain, mais on ne devient que ce qu'on est. Après un premier mariage raté, Corinne Abille rencontre Maurice Chappa au début des années 40. Ils ne se quitteront plus, mèneront une vie de bohème, vouée à l'écriture, le plus près possible de la nature, le plus loin possible des villes, à moins qu'elles ne soient lointaines, car le couple voyage passionnément. Corinne Abille succombe à l'hôpital de Sierre des suites d'un cancer en automne 1979. Sur son lit d'hôpital, elle écrit encore jusqu'à l'épuisement. Elle achève aussi les dernières corrections du manuscrit du bal double.
Pour retracer ce parcours, vous avez rassemblé quelques documents d'archives et invité la comédienne Rita Gay à dire des textes de Corinne Abille. Mais celle qui a déroulé le parcours de vie de Corinne Abille, c'est donc Gilberte Favre.
Gilberte Favre, effectivement, qui nous dit dans quelles circonstances elle a rencontré le couple. Elle avait alors une quinzaine d'années.
Alors, je vais être précise et chronologique. En réalité, j'ai d'abord rencontré René-Pierre Bille. J'avais 16 ans. Je passais toutes mes vacances scolaires, été comme hiver, à collaborer à la Feuille d'Avis du Valais. Et quand je suis arrivée au Paradou, René-Pierre m'a dit « Mais comment, c'est vous, mais vous êtes toute jeune ?» Bref, nous avons sympathisé, je lui ai dit que j'écrivais des poèmes, et c'est ainsi que nous avons entamé une amitié. Je n'aurais pas eu l'idée, à 16 ans, d'interviewer Corinne Abille, parce que pour moi, un écrivain, c'était un être presque irréel, hein. Quelqu'un qui jouait avec les mots, qui écrivait des livres, j'aurais trouvé ça très présomptueux. Et c'est quelques années plus tard que j'ai rencontré Corinna.
Alors parlez-nous d'elle, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ses tout premiers contacts ?
Je garde le souvenir de quelqu'un qui était d'abord parfaitement humble, qui avait le sens de l'émerveillement, qui était d'une hypersensibilité, qui vibrait à la nature, mais aussi à la misère, à la pauvreté qu'elle pouvait voir, même dans une ville comme Sierre. Et puis à son amour, son besoin d'écrire sans cesse. Mm-hmm. Partout où elle était, elle avait besoin d'écrire. Je pense à un voyage que nous avions fait ensemble avec Maurice Chapa, Oswald Ruppen et Corinna. Nous étions à l'aéroport de Beyrouth et il y avait pas mal de monde. Et Corinna dit « il faut que j'écrive ». Et Maurice dit « ah non, c'est pas possible, avec le bruit qu'il y a, non ». Et elle a pris un journal et elle a écrit en marge de ce journal. Pour elle, l'écriture, c'était vraiment fondamental. Et d'ailleurs, elle disait « l'écriture, pour moi, c'est la seule manière que j'ai de communiquer avec les autres ».
Et en tant qu'amie, c'était quelqu'un, parce que j'imagine, comme vous l'avez côtoyé jusqu'à sa mort, cette amitié, elle a évolué comment entre vous deux ?
C'était une véritable amie, mais vous imaginez bien qu'elle ne m'a pas fait des confidences comme elle en aurait fait à Suzy Pilet, qui avait à peu près son âge, parce que j'avais l'âge de ses enfants. Donc nous parlions de sujets qui étaient tout à fait privés, qui concernaient ses enfants, mon fils qu'il a connu quand il avait 2 ans et à qui elle récitait des contes slaves. On parlait de voyage, on parlait d'écriture, on parlait de... par exemple, elle était très sensible à la souffrance. Et j'ai un mari qui a été torturé et emprisonné. Et je me souviens qu'elle disait, et qu'il y avait des séquelles de ça, et qu'elle était intéressée. Elle me disait, comment on sait quand on a été torturé ? Comment on sait ? Donc, ce qui m'a frappée chez elle, c'est son hypersensibilité et son humilité. Elle ne disait pas, elle ne se prenait pas pour une intellectuelle, un bas bleu. Elle n'avait aucun complexe.
Pas d'a priori.
Aucun a priori. Elle aimait beaucoup le monde paysan. Elle a beaucoup retenu de sa mère, qui était originaire de Corinthe. D'ailleurs, c'est de là qu'elle a pris son pseudonyme.
Parce qu'elle s'appelait Stéphanie, dite Fifon.
Ouais. Et elle disait que l'histoire de ses parents, c'était en somme l'histoire du prince et de la bergère.
Alors on va y venir, puisque ensemble, si vous êtes d'accord, on va retracer sa vie. Mais tout à l'heure, je vous disais que Corinna Bille était avec nous, la preuve.
Mon père menait un peu une vie de seigneur. Nous habitions une grande maison et il nous emmenait dans ses voitures. C'est un des premiers Valaisans qui a possédé une voiture, une auto. Et il nous emmenait... dans le Jura, à Neuchâtelois, l'été. Ensuite, dans les petits cantons, qu'il aimait beaucoup, dans une maison en Unterwald, qui était couverte d'écailles, de bois, parce que dans ce pays, il pleuvait énormément. Et les écoles, eh bien, les écoles, je les ai suivies à Sierre, chez des religieuses françaises, ensuite dans un pensionnat à Lucerne, où j'ai eu aussi des religieuses françaises. Et je dois dire que j'en garde un assez mauvais souvenir, car c'était des êtres assez fanatiques, incultes. Et à vrai dire, elles ne me comprenaient pas du tout et je les scandalisais. Surtout, je les scandalisais par le fait que mon père était peintre, qu'il peignait des femmes nues, et qu'il était protestant. Donc c'était horrible, et certainement, étant sa fille, je devais être une fille pervertie. Et maintenant, on en rit, mais à vrai dire, parfois c'était un drame pour moi. Je ne me suis pas du tout sentie faite pour des études, car j'avais surtout envie de continuer à vivre dans la maison de mes parents, que j'aimais beaucoup. Et comme à Sierre, il y avait à ce moment-là qu'une école commerciale et pas de collège classique. J'aurais dû donc partir et je n'avais aucune envie de partir. Alors mon père m'a dit, eh bien, tu feras cette école commerciale. Et là, je dois dire que je ne me suis plus, quoique cela paraisse étrange, Ensuite, je me suis toujours dit que là, au moins, j'avais appris à taper à la machine, ce qui est très important.
Voilà, dans cette voix, on ressent bien l'humilité, une forme de timidité de cette femme qui ne devait pas beaucoup aimer s'exprimer derrière un micro. Mais on sent aussi qu'elle a des choses à dire et qu'elle n'a pas peur de le dire. Elle avait des avis quand même bien tranchés sur tout.
Elle me disait que la première image qu'elle a eue de sa vie, elle avait 3 ans, c'est l'image de son père qui lui tend le biberon de lait. Ils sont sur une calèche, ils vont à Grimens. La maman de Corinna est à l'hôtel Cécile. À l'époque, à la clinique Cécile, enfin c'était un hôtel, les dames venaient pour accoucher. De René Pierre, c'est en 1915, donc ça joue au point de vue timing. Et elle disait, mon père, je le regardais comme si c'était un dieu. Donc elle a eu cette image-là. Sensible, oui, très sensible. Je l'ai vu pleurer. Par exemple, en 1975, quand il y a eu cette fameuse campagne de diffamation à son égard dans les journaux, et qu'elle était chez nous, et elle a essayé de téléphoner à une amie d'enfance, de Sierre. Elle a téléphoné 2 fois, et 2 fois, on lui a bouclé le téléphone au nez.
Mais de quelle campagne vous parlez, là, juste en 2 mots?
Alors, en 2 mots, en 1975, il y a eu une campagne de presse dans ce qui est aujourd'hui l'unique quotidien valaisan, qui reprochait à Corinne Abi et à Maurice Chapa aussi, qui venait de publier les macros des cimes blanches, qui reprochait aussi à Corinna d'écrire des œuvres pornographiques. Et il y a eu vraiment beaucoup d'articles à leur égard. Et ça l'a beaucoup fait souffrir.
Une sorte d'incompréhension entre eux et le valet, qui s'est quand même arrangé quelques années, malheureusement après, surtout après la mort de Corinna, on peut le dire
très
comme
longtemps
ça.
Après, et pour en revenir aux religieuses de Sierre, elle a été mise au banc de la société parce qu'elle avait raconté une fois comment naissaient les chats. Elle ne savait encore pas comment on faisait les bébés, mais elle avait raconté à l'école comment naissaient les chats. Et pour avoir dit ça, on lui a dit, les religieuses ont dit que Corinna, c'était le mal, elle représentait le mal. Et ses camarades n'avaient plus le droit de la fréquenter, outre le fait que son père était protestant, artiste, et qu'il peignait des dames nues.
Des moments difficiles, mais tout de même, on l'entend dans sa voix, vous le disiez tout à l'heure en évoquant les premiers souvenirs de son père, une enfance féerique, une enfance d'exception qui a beaucoup, par la suite, nourri son écriture.
Oui, elle disait qu'ils avaient vécu comme des petits princes. Corinna avait, donc, elle est née en 1912, mais elle avait 3 grands frères et sœurs qui étaient nés du premier mariage d'Edmond Bille. Et elle était, disait-elle, comme une balance un petit peu entre les grands et les petits. Ils allaient se balader dans la forêt de Finges en hiver. Avec des petits grelots qui tintaient, et c'était vraiment, les sapins étaient givrés, c'était vraiment extraordinaire. Et puis, Edmond Bille a tout fait pour ouvrir ses enfants à l'art, au cinéma.
Il leur a permis de rencontrer des personnalités extraordinaires, des écrivains, des intellectuels qui passaient au Paradou.
Pierre-Jean Jouve, Panagiotis Strati... Oui, beaucoup d'artistes qui venaient trouver un refuge parce que c'était la guerre. Mais il les a ouverts aussi à l'art, au voyage. Et le premier film qu'ils aient vu, c'était Nanook. C'était un documentaire sur les Esquimaux. Mais cela dit, et surtout d'après René Pierre, avec qui j'ai beaucoup parlé, parce que j'allais souvent au Paradou, j'étais invitée au repas chez René Pierre, et à la table, il y avait la maman de Corinna, Mamita. Il me disait que depuis très jeune, elle avait son monde intérieur. Elle prenait le repas en famille et après, elle s'esquivait. Il se rendait compte qu'elle avait un monde à elle qu'elle allait écrire. Il s'en moquait un peu gentiment parce qu'il se demandait ce qu'elle avait. Mais enfin, donc le déclic de l'écriture, s'il est né à Rotsberg en une nuit quand elle a lu Oui, voilà.
On y reviendra.
C'était déjà là quand elle était toute petite.
Et vous évoquiez à l'instant Mamita, sa mère, qui a un rôle prépondérant aussi dans son développement, cette femme très fine et très sensible, mais qui est d'un milieu paysan et qui donnera toujours à Corinna le contrepoids de cette enfance dorée reçue du père. Et c'est là qu'elle va trouver des racines paysannes profondes aussi.
Oui, bien sûr, elle l'interrogeait beaucoup à ce sujet. Et elle disait que Edmond Bille l'a très bien comprise, puisqu'il était artiste sur le plan de la création, mais que celle qu'il avait le mieux comprise, c'était sa maman, Mamita, une dame qui était très douce, effectivement.
Et qui l'a toujours encouragée.
Oui, qui l'a toujours soutenue, qui l'a toujours encouragée.
Dans les quelques mots qu'on a entendus tout à l'heure, Corinna parlait de cette expérience un peu traumatisante chez les religieuses. Quel est le rapport qu'elle gardera par la suite avec la religion ? De cette famille protestante, de cette éducation chez les sœurs catholiques, qu'est-ce qu'elle va faire de tout ça par la suite ?
Franchement, je ne veux pas vous dire des choses qui seraient inexactes parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais elle avait un certain détachement. Je sais qu'à la fin de sa vie, quand elle était à l'hôpital et qu'on lui a demandé si elle voulait l'extrême onction, d'abord elle n'a pas voulu, elle a refusé. Et ensuite, avec un petit sourire, elle a dit oui. Elle s'est quand même pliée aux traditions. Elle n'était pas une fanatique. Mm-hmm. Non.
Et si on reprend le fil de son destin, on peut évoquer à une vingtaine d'années une brève expérience dans le cinéma qui sera quand même marquante pour elle.
Oui, ça a été une expérience avec le cinéma, ça a été une expérience avec le monde de Ramu, avec Kirsanov.
Parce qu'elle travaille sur le film Rapt qui est adapté de l'œuvre de Ramu.
Exactement. Et elle est script girl. Faute de mieux, et elle fait la connaissance de deux personnes. Elle fait la connaissance de Vital Gémond, qui est un jeune premier, qui était plutôt si jeune d'ailleurs, puisqu'il avait une quinzaine d'années de plus qu'elle, et qu'elle épousera. Mais elle ne sera pas heureuse avec lui, et elle reviendra de Paris blessée, la mal mariée, dira-t-elle.
Mmh. Fragilisée. Aussi, c'est peut-être là qu'elle se renferme un peu dans son cocon, bien décidée à plus laisser comme ça embarquer.
Oui, parce qu'elle était, effectivement très jeune, mais elle a aussi rencontré justement un écrivain roumain, Benjamin Fondan, avec qui elle avait des rapports très fraternels. Et elle sera très meurtrie quand elle saura des années plus tard qu'il est mort à Auschwitz. Elle ne pouvait pas imaginer que cet écrivain roumain qu'elle avait côtoyé pendant plusieurs mois puisse connaître un destin si tragique.
Alors ce soir, nous sommes aussi ce soir pour entendre Corinna Bille autrement que par sa voix. Alors voici un premier texte, les mots de Corinna, tiré d'Emerentia, et c'est la comédienne Rita Gay qui lit pour nous ce soir.
Les feuilles cuivrées d'un petit bois de chêne nain, au-dessus du village, claquettent, métalliques. Les amandiers cernent les murs de pierres sèches, de nuages rosés. Ici, la terre est déjà chaude. Là-bas, les étendues fangeuses exhalent leur miasme. Emerentia pense que les trésors du monde sont autour d'elle, le soleil, le fun tiède, la transparence de la rivière, mais elle ne sait pas qu'elle-même en est la crème et la couronne. Debout devant elle, monsieur le doyen la questionne. Qu'est-ce que la trinité radieuse ? Il n'y aura pas de réponse. La fillette serre des lèvres effroyablement pâles. Répète, c'est un dieu en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle tremble, le regard fixe. On croirait qu'elle ne voit plus rien, un regard d'aveugle né, mais d'une beauté bouleversante, où le blanc n'existe pas. Cette rigidité, ce silence trouble le prêtre. Je veux que tu dises, le Père, le Fils et... Emerentia tombe sur le plancher et s'y roule, se tord en poussant d'affreux cris. Une servante et Madame Fulcry viennent la chercher, la ligote, la met au lit. Elle devra dormir sans avoir soupé. Mais pourra-t-elle dormir? Oui, puisqu'elle rêve. Elle est assise accrue sur la crinière du cheval arabe de son père, mais il la tient bien fort dans ses bras. Vous devriez l'exorciser, dit Madame Fulcry au doyen. Il se tait. Peut-être a-t-il peur? Il n'a jamais autant cru aux démons qu'en présence d'Emerencia. Il cessa plusieurs jours de la questionner, puis il recommença. Qu'est-ce que le péché? Silence. Si tu ne réponds pas, tu seras fouetté avec des branches d'églantier. Emerencia craignait ses épines plus encore que les lanières de cuir. Elle répondit d'un trait sans respirer. Il y a le péché de la vie et le péché de la mort. Le doyen fut tellement surpris et de la réponse et qu'elle ait répondu qu'il en laissa choir le catéchisme. Pourquoi as-tu dit cela? Bégaya-t-il. J'ai répondu sans penser à rien parce que le catéchisme s'est écrit sans penser. On ne peut rien comprendre dans le catéchisme. Elle avait parlé en levant courageusement vers lui ses yeux trop grands qui n'exprimaient ni joie ni haine, mais une indifférence poignante, une sensibilité enfantine d'adulte, pétrifiée, lisse. C'était un regard d'un cristal noir, d'une force insoutenable.
Voilà un texte qui nous amène tout droit pour parler de la vocation de Corinna Bille. Alors pour elle, le déclic est assez précis. Elle le situe, elle avait 16 ans. Une nuit de veille, dira-t-elle, je décidais de devenir écrivain. Mais devient-on ce qu'on est? Écrit-elle à cette époque.
Mais on ne devient que ce qu'on est. Oui, le déclic, parce qu'elle avait hésité. Entre la littérature, la peinture, la danse, elle jouait aussi du piano. Et c'est après avoir lu Manhattan Transfer de Dos Passos qu'elle a dit qu'elle voulait devenir écrivain. Mais on ne devient que ce qu'on est. Mais en réalité, elle écrivait déjà depuis son plus jeune âge, depuis peut-être 7-8 ans, d'après son frère René-Pierre. Et là, vous me demandiez tout à l'heure de quoi est-ce que nous parlions. Quand nous nous voyons, on parlait de nos écrits. Moi, j'ai été journaliste à l'Illustré à une certaine époque. Et pour faire le lien avec Emerencia, j'avais raconté à Corinna que lors d'une enquête que j'avais faite sur les prisons de femmes en Suisse, j'avais été très étonnée d'être reçue à la prison de Regensdorf par une dame. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce drame qui était intervenu dans les années 70. Il y avait un pasteur allemand et sa femme, qui était suisse-alémanique, qui avait battu à mort une petite fille parce qu'elle ne voulait pas faire ses prières. Et cette dame, elle avait préparé mon repas, elle avait dressé mon couvert et elle avait mis un petit bouquet de fleurs à côté de mon assiette. Je l'avais reconnue parce que sa photo avait été publiée dans la presse et j'avais été très, très étonnée que cette criminelle, en somme, aimait les fleurs et pu avoir l'attention de mettre un petit bouquet de fleurs. Et Corinna avait été très sensible à cette histoire vraie qui rejoint Emerencia.
Et est-ce qu'on peut dire qu'à partir du moment où elle reconnaît, où elle accepte et où elle s'engage dans cette vocation, écrire devient encore plus impérieux toute sa vie?
Oui, je crois que c'était le moteur de sa vie, en plus de ses enfants, bien sûr. D'ailleurs, ses enfants ne l'ont jamais empêchée d'écrire. Elle disait qu'elle pouvait écrire en ayant les enfants autour d'elle. Ils jouaient, le fait qu'ils étaient trois, c'est aussi plus facile parce qu'ils jouaient entre eux. Il ne fallait pas qu'ils lui parlent. Et alors, elle pouvait écrire partout. Et elle avait besoin d'écrire tout le temps. Même la nuit, ça lui arrivait d'avoir besoin d'écrire. Et elle disait, elle m'a dit, mon mari a toujours veillé à ce que je puisse écrire.
Et dès le début, ses parents, la même chose, et son père et sa mère vont l'aider à entretenir cette flamme.
C'est-à-dire qu'il ne savait peut-être pas avec précision, ainsi que ses frères et sœurs, ce qui se passait en elle, qu'elle avait ce besoin d'écrire qui était vraiment impérieux. Mais ils ont respecté après son besoin et ils ont vu que c'était une vocation qui était vraiment présente.
Et à partir de ces années-là, combien de temps va-t-elle attendre avant d'être publiée ?
Elle est son premier livre, c'est Printemps, est publié en 41, je crois. Et ensuite, Théodas sera publié en 44.
Parce que son premier roman.
Son premier roman. Alors là, c'est 1944, c'est une toute belle année. Comme dira Chapa, c'est la libération de Paris, c'est la naissance de Blaise, et puis c'est l'édition de Théodas. Mais malheureusement, c'est aussi la mort de son ami roumain. Auschwitz.
Dont vous nous parliez tout à l'heure.
Voilà, ouais.
Et c'est aussi quand même commencer sa vie d'écrivain dans une période économiquement difficile, où j'imagine que les éditeurs devaient avoir du mal à vivre et à publier. Donc c'est quelque chose qui va retarder, qui va mettre des bâtons dans les roues à l'écrivain que Corinna voulait devenir.
Alors Corinna ne se mêlait pas tellement des contacts avec les éditeurs. C'était le rôle de Maurice Chapa. C'était lui qui avait des contacts, c'était lui qui intervenait auprès des éditeurs. Et à l'époque, il y avait les Portes de France à Pourentruy qui ont été créées par Jean Cutat, Pablo Cutat, son frère qu'on appelle Tristan Solier, et par Schaffter. Et là, pendant la guerre d'ailleurs, il y avait pas mal d'écrivains français aussi qui étaient édités en Suisse. Alors ça, c'était le rôle de Corinna. En somme, ils se répartissaient assez bien les rôles, parce que Corinna tapait à la machine, ça c'est l'avantage de l'école de commerce, que j'ai aussi faite d'ailleurs, et puis Maurice cherchait les éditeurs. Après, il y a eu une période qui a été difficile, une sorte de désert littéraire, où ça a été très difficile pour elle de trouver des éditeurs.
Parce qu'au fond, qu'elle s'en préoccupe ou pas, elle souhaitait quand même être publiée.
Bien sûr. Moi, je l'ai découverte surtout dans des journaux, d'abord comme L'Abeille, dans lequel elle écrivait des articles sur certaines coutumes valaisannes. En tant que sédunoise, ce n'était pas des sujets qui m'intéressaient tellement. Mais après, quand il y a eu Juliette Éternelle, alors là, ça a été le grand emballement. Et Corinna a été connue, contrairement à ce qu'on peut dire ici ou là, elle a été connue à Paris, en France, bien avant Maurice Chapa, puisque son premier livre a été publié chez Gallimard en 1975. Elle a eu le Goncourt de la Nouvelle. Et Maurice Chapa, avec l'Évangile selon Judas, n'a été publié que dans les années 1991.
Alors, les années de consécration, on y vient, on y arrive. 1974, le prix Schiller. 1975, on écoute.
Les lettres romandes ont décidément le vent en poupe depuis plusieurs mois. Après Jacques Chesset, prix Goncourt 1973, Georges Borgeot, prix Renaudot 1974, c'est vous, Corinna Bi, qui êtes montée à l'assaut des récompenses littéraires et avez enlevé la place, si je puis dire, puisque l'Académie Goncourt, il y a un peu plus d'un mois, vous a attribué son prix de la nouvelle, la bourse de la nouvelle 1975, pour votre livre intitulé « La demoiselle sauvage ». Vous attendiez-vous à recevoir cette distinction ?
Non, absolument pas. Je voulais même pas qu'on m'en parle. On m'avait dit « Vous avez quelque chance ?» Et je disais « C'est impossible, je n'aurai jamais cette chance. » Et parce que j'estimais, comme vous, que déjà deux Suisses avaient reçu le prix. Et puis ensuite, j'admirais Jean-Loup Trassard. Je me disais « C'est probablement lui qui l'aura. » Et je voulais vraiment pas en entendre parler. Je voulais pas espérer, vous comprenez. Et c'est en Angleterre où nous étions en tournée de conférences lecture dans l'université avec mon mari que nous avons appris la nouvelle.
Que représente ce prix pour vous, Corinna Bi?
Oh, pour moi, c'est une aventure très belle, même extraordinaire. Tout à coup, être accueilli par la France. Vous savez bien que c'est le rêve de tous les écrivains romans. Et Moi-même, j'y avais plutôt renoncé.
C'est un rêve que vous faisiez depuis longtemps ?
Oui, alors le rêve que je faisais depuis longtemps, c'est d'être un jour édité par Gallimard. Et voilà que c'est arrivé. C'est arrivé tout naturellement après le Goncourt. Oui. Alors ça, c'est, pour moi, c'était merveilleux.
Pourquoi les éditions Gallimard vont donc éditer La Demoiselle Sauvage, qui était éditée par Bertil Galland ?
Oui, en coédition, mais c'est déjà fait. Ils l'ont fait en 3 jours. Et quand j'ai vu arriver, j'étais émerveillée parce que c'est la grande édition.
On entend bien ici la modestie, l'humilité dont vous parliez tout à l'heure, cette fraîcheur aussi, une forme presque de naïveté. Elle est vraiment
oui, effectivement,
son monde et très loin de toutes ces contingences.
Absolument, elle n'était pas comme tout le monde, elle était un peu comme un ange, comme une fée. C'était pas, je ne l'ai jamais entendu dire du mal de qui que ce soit. Ce n'était pas ce qu'on peut entendre dans certains milieux littéraires. Jamais je n'ai entendu dire du mal de qui que ce soit. Elle était vraiment bonne. Et c'est une grande qualité d'avoir du cœur.
Et là, par exemple, en 75, elle reçoit ce prix, les dernières années de sa vie, ça a changé quelque chose dans son comportement
Elle avait des rêves, elle avait envie de voyager. Alors elle a d'abord eu la chance d'être invitée par son fils Blaise en Afrique. Elle a beaucoup aimé l'Afrique, pour les paysages, mais aussi pour les personnes. Et elle avait écrit un livre qui n'a pas été encore publié, d'ailleurs, « Afrique, fabuleuse enfance ». Et c'était des contes que, je crois, un collaborateur de son fils lui avait racontés. Et ça n'a pas été. Ensuite, elle était folle de Russie aussi. Elle avait beaucoup aimé l'idiot de Dostoïevski. Elle n'aimait pas beaucoup Tolstoï, mais elle adorait Dostoïevski. Et elle est allée 3 fois en Russie. Une fois avec la Société des écrivains suisses, qui se sont comportés comme des mufles à son égard. Et puis ensuite, une autre fois encore avec une amie d'enfance. Et puis encore une autre fois. Elle est allée 3 fois en Russie. Elle adorait la langue russe. Pas le régime, mais la langue russe.
Et ça, donc, toutes les dernières années, le succès, peut-être une amélioration du statut économique aidant, ça lui a donné un peu d'audace, d'envie d'assouvir des rêves.
Et oui, et justement, le troisième voyage, c'était le Transsibérien qu'elle a fait avec son mari. Ça, c'était un rêve très, très profond. En réalité, elle avait envie, me disait-elle, de faire le tour du monde pour avoir une fois le sentiment de la vastitude. Elle voulait voir l'île de Pâques, elle voulait voir les îles Galapagos. Mais le Transsibérien, c'était un rêve.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si dans sa voix, Corinne Abi laisse paraître une certaine fragilité, à travers son écriture, elle donne à entendre une voix sûre et audacieuse. Rita Gay.
Chant d'amour et d'absence. Je suis toutes les jeunes filles qui volent au-dessus des herbes. Les prairies crépitent d'élytres, de graines et d'épis tranchants. Elles parfument et brûlent. Elles guérissent. Elles donnent la mort. Je serai pour toi l'unique. Je serai ton amour car tu es mon amour. Avant toi, il n'y eut personne. Après toi, il n'y aura que la mort. De tout temps je t'ai connue et je ne le savais pas, maintenant je sais. Je n'ai pas trouvé de mots pour te parler, tu n'as pas inventé de mots pour m'aimer, mais il a suffi d'un regard. Nous nous sommes vus et nous avons souri. Il n'y eut qu'une vision, un seul sourire. Si je me penche, mes cheveux nocturnes tombent jusqu'à mes genoux. Je suis la jeune fille au sein nu. Tu es le jeune homme de la cité. Ma peau est brune de soleil. La tienne est blanche d'ombre. Nous traversons à la nage les fleuves. Nous galopons sur les chevaux sauvages. Nous dormons dans les trains. Nous gravissons les collines. Nous tournons sur les balançoires. Avec de petits fusils de bois, nous fusillons les fleurs et les bêtes. Tu as mis ta main sur mon visage et mes cils bruissent contre tes doigts. C'est la nuit d'un monde rempli d'insectes, d'étoiles rouges, de kaléidoscopes. Nous nous sommes étendus côte à côte, Dans le silence absolu, nous étions les gisants. Le bonheur pesait sur nous comme une dalle. Pourrons-nous le supporter? La souffrance est plus naturelle. Notre mal sur la terre est d'avoir peur de la joie. Le lac dans le désert était d'un azur effrayant. Sur un banc de sable moussu, un troupeau de vaches paissait. Nous avons enlevé nos vêtements, mon corps brun, ton corps blanc, et sans nous regarder, nous avons couru vers cette eau trop belle. Et là, plongeant, nous nous sommes étreints. Je glissais dans tes bras lisses, tu m'éclaboussais d'une écume bleue et tu disparus. Tes yeux sous l'onde, grands ouverts, me contemplaient.
Gilberte Favre, c'est un texte qui représente bien l'univers littéraire de Corinne Habille.
Oui, c'est un texte qui représente, je dirais, un de ses aspects, c'est-à-dire le sentiment amoureux, mais il y a aussi chez elle un amour universel, un amour pour l'être humain, un amour pour la nature, parce que je me souviens de Georges Bourgeot qui disait, elle connaissait le nom de chaque fleur, de chaque plante, de chaque arbre. Elle avait cette hypersensibilité à tout. Et vous me disiez, elle était un peu naïve. Oui, c'est vrai, elle avait gardé ce qui, à mes yeux, est une grande qualité, c'est-à-dire la vertu d'enfance. Elle était restée, elle avait le don d'enfance.
Alors, on va peut-être maintenant aborder une rencontre qui allait bouleverser la vie de Corinne Habille. Gilberte Favre, parlez-nous des circonstances qui ont fait se croiser les écrivains Maurice Chappat et Corinne Habille.
Alors, comme il a déjà été écrit ici ou là, Maurice Chappat était étudiant au Collège de Saint-Maurice avec il avait un camarade, un ami qui s'appelait Georges Bourgeot. Et un jour, Georges Bourgeot a montré à Chappat, non, c'est plutôt le contraire qui s'est passé, parce que Corinna était l'amie de Bourgeot à l'époque. Et elle l'a dit, dès que j'ai vu sa photo, je l'ai aimée pour la vie. Et c'est ce qui s'est passé.
Quelques semaines après, ils se rencontrent, ou quelques années après?
Non, pas quelques années, quelques semaines après, ils se rencontrent. Et comme elle me l'a écrit quelques mois avant sa mort, mon mari est aussi mon meilleur ami.
Alors justement, on va retrouver ce couple dont on va parler à la fin de cet entretien. Et on les retrouve, ils participaient tous les deux ensemble à une émission qui s'intitulait alors « Vivre ici » sur les ondes de la radio suisse romande. Et c'était en 1973.
Je suis né à Lausanne dans le même lit que Corinne Habille. C'était la même clinique, c'était là que les femmes allaient accoucher quand c'était très difficile. Et le mien devait être très difficile, et je suis l'aîné de 10 enfants. J'ai été partagé entre deux localités et deux familles. La famille paternelle, mon père était avocat à Martigny, la famille maternelle, qui était à la fois essentiellement paysanne pour moi, qui habitait le Châble. Partagé entre le monde, alors qui pour moi était un chalet près de 2000 mètres au-dessus de Verbier avec les montagnes, et puis cet endroit, un vase clos, où j'apprenais à écrire. Et où, pour finir, en sortant du collège, il n'y avait qu'une seule vocation possible, tellement on était inadapté à toutes les autres, écrire, et c'est tout. Et ça n'a pas été seulement moi qui l'ai ressenti. Une dizaine de mes camarades en ont à la fois été enrichis et en ont aussi souffert. Les uns sont devenus écrivains, les autres sont devenus souvent médecins.
C'est à cette époque-là, je dois dire, que j'ai voulu devenir écrivain. J'avais 15 ans et à partir de ce jour-là, je n'ai plus cessé d'écrire. Et chaque jour, en rentrant de l'école, je crayonnais un poème. Cela a duré des années. Mon père, je dois dire, était heureux de me voir écrire, mais un peu déçu parce qu'il s'agissait de poésie. Pour lui, la poésie, ce n'était pas très sérieux. J'ai continué naturellement à écrire. J'ai connu Maurice Chapa. Nous avons vécu pendant des années, je dois dire, un peu comme des vagabonds. Nous campions ici et là. Nous n'avions rien, nous ne gagnions aucun argent. Et nous vivions, je dois dire, un peu comme des mendiants, mais les mendiants des familles. C'était une vie à la fois très assez aventureuse et très passionnante, parce que nous avions les mêmes besoins, les mêmes passions. Mais parfois, c'était difficile, car il fallait vivre avec des familles qui étaient très accueillantes, mais qui, parfois, en avaient un peu assez et ne nous comprenaient pas toujours et entièrement. Les enfants sont arrivés. Il a fallu que j'emporte un dans les bras et de l'autre que je continue à écrire. Je sais que le soir, parfois, il m'arrivait de vouloir écrire encore. J'écrivais, mais parfois, je pleurais de fatigue.
Voilà, Maurice Chapa, Corinne Abi, né dans le même lit d'un hôpital lausannois à 4 ans de différence, lié par une même passion. Est-ce qu'on peut dire, Gilberte Favre, qu'avec Maurice Chapa, Corinne Abi découvre la vie de bohème, une autre forme de liberté qu'elle n'avait peut-être pas encore testée jusque-là?
Je ne sais pas, parce que son frère René-Pierre, lui, il vivait dans une grotte dans la forêt de Finges. Alors, il y avait déjà la bohème. Ce qu'il y a d'amusant, c'est que lorsque nous étions au Liban, on était invités chez des amis, et tout d'un coup, une dame de la très grande bourgeoisie libanaise, qui n'avait jamais vu Maurice Chapa et Corinne Abi, leur dit: vous, je vois dans vos yeux que vous êtes des hippies. Et ils étaient vraiment, ils sont restés sans voix. Et Corinna a écrit quelque part, oui, nous étions des pré-hippies. Et oui, c'était vrai. Mais enfin, ils savaient que tout en vivant sous les pins de Finges ou dans une grotte, ils pouvaient compter sur l'appui des parents, des tantes, même si ça devait être à certains moments humiliant aussi.
Ce que Corinne Abi vient de dire dans l'extrait qu'on a entendu. Et comment travaillaient-ils ensemble? Ils se conseillaient, ils échangeaient, ils se lisaient des passages.
Oui, ils se lisaient toujours leurs textes, mais Maurice disait, si Corinna me fait des suggestions, mais si je ne suis pas sûre moi-même, si je ne suis pas convaincue d'une chose, je ne change pas. Corinna lui faisait lire ses textes et elle disait que Maurice lui donnait parfois de bonnes idées. C'est comme ça qu'ils collaboraient. Ils étaient leurs premiers lecteurs.
Mais tout en gardant toujours, en tout cas à lire ce que j'ai pu lire autour de Corinna et de Maurice Chapa, une grande admiration réciproque, un grand respect pour la liberté d'écrivain de l'autre.
Ah oui, une liberté totale. Ils écrivaient vraiment ce qu'ils voulaient. Corinna ne se serait pas abstenue d'écrire quelque chose dans l'idée de déplaire à Maurice et vice-versa. Dans l'écriture, ils étaient d'une liberté totale.
Et on l'a évoqué tout à l'heure brièvement, il y avait une forme de complémentarité chez eux. Alors bon, Maurice partait, parfois il était quand même plus libre de ses mouvements, finalement moins attaché au foyer, mais c'est lui aussi qui s'occupait de toute la partie contact, promotion, qui travaillait pour mettre en valeur les œuvres de tous les deux finalement.
Ah oui, il a passé beaucoup de temps d'ailleurs on l'a vu après le décès de Corinne Abi, il a beaucoup fait pour faire éditer des livres qui n'avaient pas été édités. Il a dépensé beaucoup d'énergie pour cela. Il avait une énorme admiration pour Corinna. Je les avais interviewés en 1970 pour l'Illustré. J'étais avec Henriette Grinda et je me souviens que je lui avais demandé « Vous n'êtes pas jaloux? Ça ne vous arrive pas d'être jaloux de l'œuvre de Corinna ?» Et puis il m'avait dit « Non, je ne peux pas être jaloux, je serais plutôt déçue face à la nullité. Je suis fière d'elle. » Même si pour Maurice, c'était plus difficile d'écrire que pour Corinna. Corinna était une source éternellement jaillissante. Tandis que Maurice écrivait lentement. Il écrivait, il avait des périodes où il n'arrivait pas à écrire. Mais non, il n'était pas jaloux des beautés que Corinna a pu écrire. Ils étaient fiers l'un de l'autre.
Et les circonstances ont fait que finalement, Corinna s'en est allée beaucoup trop vite et que, après sa mort, Maurice Chapa a publié beaucoup de manuscrits, au risque parfois peut-être de publier des textes parfois inachevés, ou peut-être que Corinna aurait hésité.
Oui, je pense. D'ailleurs, Monsieur Mettant, qui a écrit un essai littéraire sur Théoda, qui est absolument remarquable, a noté que effectivement, elle n'aurait peut-être pas voulu voir naître certaines œuvres. Par exemple, elle pensait à écrire une autobiographie, mais transposée. Elle n'aurait pas. Elle disait, j'aurais fait croire que c'était comme vrai, mais ça aurait été inventé, puis on aurait cru que c'était vrai. Je ne pense pas que le livre qui a été écrit après le mien, parce qu'il faut quand même expliquer que la biographie que j'ai écrite, ce n'est pas moi qui ai décidé un beau jour d'écrire la biographie de Corinne Abbey. Je n'aurais pas eu cette prétention. C'est Bertil Galland qui m'a un jour téléphoné, qui me connaissait depuis longtemps parce qu'il a été mon professeur au cours de journalisme, et qui m'a demandé d'écrire cette biographie. Et c'était en 79, quelques semaines après la mort de Corinna. Il avait dit « Corinna partie, nous ne pouvons pas en rester là ». Et il voulait que je fasse quelque chose un peu dans le style des albums de la Pléiade, quelque chose d'assez simple, etc. Il m'avait donné accès libre aux archives de Corinna et de Maurice. Je suis allée aux archives cantonales. J'avais accès aux lettres intimes entre du couple, d'amis, parlant des enfants, parlant de la vie de famille. Je suis restée 2 heures et j'ai eu le sentiment, et c'est peut-être dû au fait que je connaissais Corinna, qu'elle n'était pas une inconnue pour moi, que j'avais un lien affectif avec elle. J'ai refermé le tiroir et je n'ai pas pu et je n'ai pas voulu utiliser ce matériel parce que j'estimais que c'était leur jardin secret. Voilà, j'ai refusé. Plus tard, il y en a qui ont eu d'autres avis. Ma foi, la liberté, ça existe, mais personnellement, je ne crois pas qu'elle aurait aimé. Moi, je n'aimerais pas non plus qu'on exhibe ma vie privée une fois que je suis morte, que quelqu'un décide... voilà, enfin, ça se discute, hein, mais oui, il y a eu peut-être des choses qui auraient pu être faites autrement, mais ce qui est fait, est fait.
Alors, je vous propose de retrouver encore les mots de Corinna. C'est un texte ici qui est écrit à la fin de sa vie, justement de retour d'un voyage en Russie et peu avant de succomber au cancer. Rita Gay.
La Russe, Russie. J'ai vu les sapins de la taïga retomber sur moi. Je les prenais dans mes mains, je les jetais en l'air. Le vent m'a soufflé au-delà des marais, il m'a poussé sur la glace où je glissais plus vite que la télègue. Les fleuves paraissaient rouges et l'autre monde était une île noirâtre. On n'y distinguait ni homme ni maison. Mais je savais que je n'avais plus besoin d'homme ni de maison. Les bouleaux traçaient leur ronde et moi je tournais au centre, comme les cieux. Oh oui, beaux messieurs, vous serez tous mangés, vous serez tous digérés. Le monde est le petit caillou de la fronde et vous ignorez qui va le lancer. Vous ne savez pas que l'étoile absinthe a déjà éclaté, que nous sommes plus que des graines diaphanes et voltantes. Moi, je voudrais m'enfuir. Que le grand cric me croque, disait ma grand-mère. Si elle n'avait pas été sage, quelle belle aventurière. Plus qu'un poney sur les Champs-Élysées, elle aurait eu des petits chevaux dans l'Oural. Et sur sa tête, un diadème d'alexandrite et des rayons verts entre les doigts. Mon jardin de roses est une forêt d'églantiers. Mon palais ici est une guérite dans les zones. Mais je sais chanter, je sais rêver. Je n'envie personne car d'une seule enjambée je traverse les 17 montagnes, les 24 torrents et les 5 arcs-en-ciel de ma vallée. En paix, faisant le tour du monde.
Un texte, Gilberte Favre, que vous entendez un peu comme un testament, justement.
Pas tellement, parce que je ne pense pas que Corinna imaginait s'en aller si tôt.
Mais sachant ce qui c'est arrivé.
Peut-être à propos de la Russie, mais elle avait encore envie de faire beaucoup d'autres choses. Elle avait envie de voir grandir ses petits-enfants, parce qu'elle avait été très heureuse de la naissance de ses petits-enfants, de Aïka et d'Alain. Et elle voulait les voir grandir, elle voulait écrire d'autres livres, elle voulait encore voyager, il y a un tas de choses qu'elle voulait faire. Je ne pense pas qu'elle ait eu, à part peut-être les derniers jours, les dernières semaines, qu'elle ait eu la prémonition d'une mort si précoce.
D'ailleurs, elle n'a quasiment pas lâché le stylo.
Jusqu'à la fin, elle a écrit, oui.
Jusqu'au bout, Corinna Bi a écrit, c'est vrai, et c'est ce que rappelait celle qui fut son amie, l'écrivaine Gilberte Favre. C'est vous, Marlène Métraillé, qui vous êtes entretenue avec Gilberte Favre jeudi dernier au Château Mercier, à Sierre, sur les hauteurs de la ville. Et cela à l'occasion du centenaire de la naissance de Corinna Bi. Pour conclure, il faut rappeler que le livre de Gilberte Favre a été réédité dans la collection L'Air Bleu. Corinna Bi, le vrai conte de sa vie, tel est son titre.
Dire peut-être aussi que la soirée s'est poursuivie autour de l'œuvre de Gilberte Favre. Et puis aussi, pour ceux que ça intéresserait, vous dire que le musée Holzomer de Verras propose actuellement une exposition autour des personnalités de Chapa, Palézieux, Corinna Bi, Holzomer et Rilke.
Merci Marlène. Entre les lignes vous était proposé par Marlène Métraillé et Jean-Marie Félix. Merci à Rita Gay qui a lu avec talent les textes de Corinna Bi et à Pierre-Adrien Semoreau pour sa prise de son. Cet entretien, comme tous ceux qui précèdent, est à votre disposition sur la page internet de Entre les lignes. Vous y parviendrez en tapant rts.ch/entre-les-lignes. Demain, avec Catherine Fadbert, je recevrai Tanguy Viel, auteur de La disparition de Jim Sullivan, roman paru aux éditions de Minuit. Vous écoutez Espace 2, il est midi.